Je vote pour la science avec Isabelle Bourgoin.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Nous vivons une épidémie sans précédent du virus à l'origine de la variole simienne. Avec plus de 76 000 cas confirmés en laboratoire en date du 26 octobre dernier. Pourtant, on entend peu parler de cette maladie infectieuse contagieuse. Elle se transmet des animaux aux humains, mais aussi entre les humains. Le symptôme le plus reconnaissable de cette zoonose sont les éruptions cutanées autour de la bouche et des organes génitaux, mais elles peuvent aussi toucher l'ensemble du corps. Endémique dans plusieurs pays d'Afrique, il s'agit d'une urgence de santé publique de portée internationale, selon l'Organisation mondiale de la santé. La variole simienne touche plus de 1400 Canadiens, au Québec et en Ontario principalement. Et les médias semblent avoir stigmatisé plus particulièrement la communauté homosexuelle où on retrouve de nombreux cas. La stigmatisation se propagerait-elle comme le virus? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, cette semaine, nous voulons vous parler de la variole simienne et la discrimination qu'elle engendre parfois. Nous en parlons aujourd'hui avec Alexandre Dumont-Blé, directeur général de Réseau. C'est un organisme communautaire et sans but lucratif qui développe et coordonne des services en lien avec la prévention VIH-ITSS et la promotion de plusieurs aspects de la santé sexuelle, mentale, physique et sociale auprès des hommes gays ou bisexuels ou hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'ils soient cis ou trans. Bonjour. On est aussi en compagnie du docteur Régent Thomas, fondateur, président, directeur général de la clinique médicale L'Actuelle, une clinique orientée vers le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies transmises sexuellement et du sida. Bonjour.
Bonjour.
Donc la variole simienne est une zoonose originaire d'Afrique. Elle reste encore très incomprise et même parfois banalisée par les médias. Il est vrai que l'épidémie connaît actuellement une régression et c'est pas exactement comme la pandémie de la COVID non plus. Il y aurait cependant plus de 1400 cas au Canada. Cette maladie infectieuse contagieuse semble associée à une orientation sexuelle ou à des relations sexuelles dans les médias, alors qu'elle peut se transmettre par bien des façons. Docteur Thomas, rappelez-nous son mode de transmission.
Mais c'est une maladie, effectivement, qu'on a vue surtout en Afrique. On parlait même à l'époque d'une maladie qui touchait particulièrement les enfants, les ados, parce que la transmission principale était cutanée, donc d'un contact à l'autre. Par contre, c'est pas ce qu'on a vu en Occident, c'est pas ce qu'on a vu au Québec. On l'a vu surtout dans un contact de maladies transmises sexuellement, des gens avec des symptômes génitaux qui venaient nous voir pensant ayant une ITS, et touchant principalement les hommes gays ou bisexuels.
Quelles sont les particularités de cette maladie?
Oui, ben c'est une maladie d'abord qu'on ne connaissait pas. Hein. Le premier cas a été découvert au Québec le 12 mai. Après ça, on a entendu parler qu'il se passait des cas en Europe, Royaume-Uni, Barcelone. Bon, et le monde voyage, alors les gens voyagent, donc possibilité de transmission. C'est une maladie qui, au début, était difficile à diagnostiquer parce qu'on n'en avait jamais vu. Et donc, ça pouvait ressembler à une syphilis, ça pouvait ressembler à de l'herpès. Et rapidement, je vous dirais rapidement, les cliniques, les médecins dans les cliniques du village ont été quand même assez alertés et, je dirais, commencé à poser des diagnostics, ce qui a beaucoup aidé là à la suite de l'épidémie. Et on s'est mis à avoir donc beaucoup, beaucoup de cas. Particulièrement, donc les gens arrivaient avec des lésions cutanées, parce que quand il n'y a pas de lésions cutanées, on ne peut pas vraiment faire de tests pour le moment. Donc les gens nous arrivaient particulièrement avec des ulcères au niveau des organes génitaux, mais ça pouvait être aussi ailleurs, sur le corps, des plaques, sur le corps, dans la bouche. Et ce qu'on voyait surtout, c'était très, très, très souffrant, ces ulcères-là, alors qu'on ne voit pas ça avec... une syphilis ou poil herpès parfois un petit peu. Puis ce qui était compliqué un peu, c'est que 30% de nos patients avaient une autre ITS. Alors, on avait beaucoup de co-infections, mm-hmm. ITS, herpès, syphilis et variole simienne, ce qui pouvait compliquer un petit peu le tableau clinique.
Oui, c'était quoi le suivi nécessaire? C'est une maladie, si on comprend bien, qui est peu mortelle, mais qui peut être stigmatisante avec des infections qui sont visibles?
Ben, le suivi, d'abord, au début, on ne savait à peu près pas de quoi on parlait.
Oui.
Soyons honnêtes. Et on voyait des lésions et on ne savait pas trop. Et il n'y avait pas grand-chose à faire. L'accessibilité au traitement antiviral était très, très limitée. Et on ne savait pas trop, je dirais, quand donner le traitement antiviral. C'est une maladie qui, dans 90% des cas, quand même, guérit bien à l'intérieur de 2 à 4 semaines. Mais il y a certaines exceptions. Il y a des gens qui ont eu des complications. On parle des antibiotiques intraveineux. Et donc, pour ça, moi, j'ai un patient, on a un patient qui a été hospitalisé, il n'était plus capable de manger. Il n'y a pas eu trop d'hospitalisations. Il n'y a pas eu de décès au Québec, je pense. Mais c'était quand même des gens... C'était quand même assez complexe avec les gens s'absentent de leur travail de 2 à 4 semaines. Et nous, quand les gens arrivaient à la clinique, parce qu'on nous avait demandé d'être très sévères au niveau de l'isolement, je me souviens, il y a des journées où on avait près d'une dizaine de patients à la clinique sans rendez-vous qui venaient pour une possibilité de variole simienne. Donc, il fallait trouver des bureaux, isoler ces gens-là, s'habiller, porter le masque et tout le kit. Là. Au début, on ne savait pas trop s'il pouvait y avoir une transmission chez les professionnels de la santé. Donc, c'est un peu complexe.
Oui, en plus, c'était une épidémie. C'est une épidémie qui s'inscrit dans une pandémie. Donc, j'imagine aussi que ça vient compliquer les choses.
Ben, moi, ce que j'ai surtout vu pour beaucoup des patients un petit peu plus âgés, ça rappelait beaucoup le sida. L'inquiétude, encore une nouvelle maladie, encore nous autres les liés, pourquoi? Et il y avait c'est une maladie qui avait tout pour être stigmatisée, qu'on parle d'homme gay ou bisexuel, qu'on parle du singe. Alors moi, rapidement, j'ai opté pour éliminer le mot singe de mon discours et parler de variole simienne. Et parce que c'est évident qu'il y avait tous les stigmates. Et moi, ça me rappelait un peu mes premiers cas de sida où on voyait des choses qu'on savait pas ce qu'on voyait. Et qui touchait particulièrement les hommes gays. Heureusement, c'est une maladie qui était plutôt bénigne et qui va guérir d'elle-même.
Oui. La corrélation faite entre la variole simienne et l'orientation sexuelle par une méconnaissance souvent de la transmission de la maladie, et si les éclosions n'avaient pas lieu au sein des hommes gays, la couverture médiatique aurait été peut-être très différente. Qu'en pensez-vous, M. Dumont-Blé?
C'est une excellente question. Moi, j'ai une approche un peu nuancée. Premièrement, je pense que c'est important d'informer le public sur ce qui se passe. Si on recule au mois de mai, c'est intéressant de se rappeler comment au niveau communautaire on a vécu, en fait, un peu tout le monde. On apprend dans les nouvelles, comme Dr. Thomas explique, qu'une nouvelle chose qui apparaît, on se demande c'est quoi, on se questionne, on fait des tests pour vérifier. Donc là, on apprend qu'il y a un nouveau virus qui circule et qui est principalement chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est la clientèle que Réseau rejoint depuis 30 ans. Donc là, les messages textes, les appels commencent à se faire, puis on voit un peu de l'inquiétude un peu partout. Et évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire associer donc des personnes qui ont une pratique sexuelle, et donc qui peut être principalement des hommes gays bisexuels, ou des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qui peuvent être aussi des hommes hétérosexuels, parce qu'il y a des hommes hétérosexuels qui ont des relations avec des hommes qui ne s'identifient pas comme gays bisexuels nécessairement. Donc, effectivement, il y a une inquiétude par rapport à ça. Toutefois, je dois quand même dire que on était tellement dans une rapidité d'information et puis de travailler avec les différentes instances de santé publique pour mettre en place la vaccination que, bien franchement, on a dû mettre de côté un peu cette stigmatisation-là. Dans le sens que même si elle pouvait s'opérer, on m'a posé beaucoup la question dans une dizaine, quinzaine d'entrevues que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi. Est-ce que vous croyez que ça va stigmatiser? On vient de faire la référence avec le VIH. Tout ça, c'est certain que quand, dans les grands médias généralistes, on mentionne que le virus affecte dans les nouveaux cas à 99% des hommes LGBT, évidemment qu'on se pose la question. De notre côté, si on n'informe pas, si on n'informe pas nos communautés à travers les grands médias, il y a des personnes qui ne seront pas au courant. À Réseau, on n'a pas la prétention de rejoindre tous les hommes à Montréal qui ont des relations sexuelles avec des hommes au Québec. T'sais. Donc, je dirais qu'il faut être un peu nuancé, mais clairement, on a toujours cette crainte. Et puis les mois qui ont suivi nous l'ont rappelé. Dans un grand média à Montréal, il y a une journaliste à la fin de son reportage qui était au sujet du premier enfant qui avait contracté la variole simienne, qui disait « Nous ne savons toujours pas si les parents de cet enfant sont homosexuels. » Alors, vous voyez le lien qu'on fait en lien avec le fait que, dans les médias, on avait dit que la majorité des cas étaient chez les hommes LGBT. Donc oui, c'est un enjeu, c'est certain, mais de notre côté, on était aussi beaucoup sur l'information, sensibilisation, sur les modes de transmission et surtout sur l'information sur la vaccination. Et finalement, on a résulté une mobilisation vaccinatoire assez impressionnante qui a été faite en corrélation, en travail direct avec la santé publique, avec le SUS local, tout ça pour s'assurer d'offrir un espace de vaccination large public tous les jours dans différents sites à travers l'été aussi, et pendant les activités de Charte-Montréal également. Je voudrais juste revenir un petit peu, en fait, Dr. Thomas l'a mentionné aussi, et nous aussi, à raison, on soutient l'importance des mots dans une situation de crise comme celle-là, variole simienne plutôt que variole du singe, parce que hein, quand on parle de nouveaux virus qui affectent des hommes gays ou des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, et qu'on parle de variole du singe, on a vu rapidement sur les réseaux sociaux des blagues, des mimes, des gifs sur le sujet avec des singes et tout. Et je veux dire, je pense qu'on n'aide personne. Puis, je suis très content qu'au Québec, un peu partout, rapidement, on a changé les mots utilisés par variole simienne, alors qu'encore, dans le milieu anglophone, si vous allez sur le gouvernement fédéral canadien, en anglais, c'est monkeypox, puis en français, c'est variole simienne. Donc, je me pose quand même des questions encore par rapport à ça, mais on a été pas mal sur la même ligne sur l'utilisation des mots pendant la gestion de la crise. Donc, voilà, par rapport à l'orientation sexuelle, c'est toujours un enjeu pour nous à Réseau, sur différents autres enjeux aussi. Quand on va vers les médias ou quand on souhaite en parler dans les médias pour bien informer, on a toujours cette crainte qu'on mette l'accent sur l'orientation, sur les pratiques sexuelles, mais d'un autre côté, si on n'informe pas, on prend pas les opportunités de bien informer, ben, en même temps, on n'informe pas.
Oui, tout à fait. La stigmatisation peut faire obstacle majeur à la prévention et au traitement de la maladie, la crainte de subir donc de la discrimination systémique dans le réseau de la santé. C'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que le VIH a laissé des traces, Dr Thomas?
Oui, le VIH a laissé beaucoup de traces, parfois pour le meilleur, parce qu'on a eu une meilleure connaissance un petit peu des droits, des demandes des patients. Les patients du VIH ont joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre le VIH, contre la stigmatisation. Mais je veux dire, moi, je suis toujours étonné de voir à mon bureau des patients qui vivent l'homophobie dans le milieu de la santé de façon générale, régulière. Alors, la situation est loin d'être réglée. Alors, des maladies qui encouragent la stigmatisation mon interlocuteur l'a bien dit, c'est le défi d'informer. On n'a pas le choix, faut informer les gens tout en faisant attention. Puis nous, on fait attention, mais parfois, il y a un média qui voulait écrire dans son titre la variole du singe. J'avais fait une entrevue avec, j'ai écrit au directeur du média, un grand média connu. J'ai dit non, on n'utilise pas ce mot-là. Puis là, il m'a demandé pourquoi, il a fallu que j'explique. Alors, il a changé son titre. Donc, et chez les gens, je vous ai beaucoup de souvenirs de l'époque du sida. Beaucoup de gens de mes patients VIH, ça leur a rappelé de très mauvais souvenirs. Puis en plus, on est aussi dans une période qui était, et c'est vrai qu'on a fait un travail, je pense, la santé publique, le réseau communautaire, le réseau des cliniciens dans le village, quand même incroyable. On s'est tourné les bras, on n'avait pas de support supplémentaire, on travaillait avec nos mêmes infirmiers, nos mêmes médecins. Et tout le monde a été très impliqué pour essayer d'arriver à une éradication de la maladie. Alors, ça, je pense que c'est... et d'informer la population. Et l'autre problème, il y a des populations... Bon, il y a deux choses. On était dans une époque, quand même, il y a une fatigue des vaccins.
Ah oui.
Bon, encore un vaccin. Donc, moi, j'avais quand même des patients assez à risque élevé qui ne se faisaient pas vacciner. Alors, je leur montrais des photos de c'était quoi la variole simienne, puis en sortant, ils allaient se faire vacciner. Mais je veux dire, la fatigue des vaccins, la peur des vaccins de certains nombres de personnes de la population, tout le monde vit pas au centre-ville de Montréal, centre-ville, je veux dire. Donc, les patients qui étaient plus Rive-Sud, Rive-Nord, qui vivaient, avaient moins accès à la vaccination ou moins d'informations, étaient un petit peu moins informés. Alors, il fallait aussi prendre le temps d'informer ces gens-là qui suivent pas nécessairement les réseaux sociaux non plus.
Oui, on le rappelle, il existe 3 vaccins qui fonctionnent, mais il y a même des touristes qui viennent se faire vacciner au pays. Est-ce que la vaccination contre cette variole simienne a été adoptée par ceux qui pouvaient être à risque? Qu'est-ce que vous avez vu auprès de votre communauté, vous, Monsieur Dumont-Blé?
Oui, justement, par rapport à la vaccination, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Puis j'ajouterais que ce qu'on a remarqué, par contre, avec la rapidité de mise en place de vaccination, c'est que la structure vaccinatoire COVID qui est en place nous a grandement aidé, je crois, à mettre ça en place rapidement. Il faut quand même essayer de trouver du positif dans cette foutue pandémie. C'est que rapidement, un virus est là, il y a un vaccin, la structure est en place, ce qui a fait en sorte, à début juin, là, dans mes discussions avec les différentes instances, ça a été mis en place très, très rapidement. Et nous, après, on a fait des messages, des vidéos sur nos réseaux sociaux pour informer les personnes qui pouvaient aller se faire vacciner. Et d'autres villes au Canada étaient encore en train de comprendre ce qui se passait avec la variante, puis d'essayer de faire des liens avec leur santé publique pour mettre en place, parce qu'ils savaient très bien que ça allait se propager dans d'autres villes au pays. Faut rappeler aussi qu'en mai, juin dernier, quelques mois après le dernier confinement, on avait un peu dans nos communautés le sentiment qu'on allait vivre un printemps, un été, en guillemets, normal, qu'on allait revenir au festival, qu'on allait revenir dans les parties entre amis et tout, en public et tout. Alors, je pense que ça, jumelé avec le réflexe vaccinatoire, et bien certainement, il y a des personnes qui étaient tannées des vaccins, je ne sais pas tout le monde qui se sont fait vacciner, mais nous, ce qu'on a vu, c'est une forte mobilisation, surtout à partir de début juin, là, pendant le mois de juin, juillet, en prévision des activités estivales. C'était des centaines de personnes qui allaient se faire vacciner chaque jour, qui mentionnaient sur Instagram leur vaccin, taguaient réseau. Nous, on a fait un kiosque d'intervention au site principal de vaccination sur de Maisonneuve, près de Métro-Berry, qui est encore ouvert d'ailleurs tous les jours, parce que maintenant la deuxième dose du vaccin est offerte depuis 3 semaines déjà, si je me trompe pas. Donc, il y a près de 30 000 personnes qui ont été vaccinées pour la première dose, et il y a près de 5 000 personnes qui ont été vaccinées pour la deuxième dose, et ça seulement en 3 semaines. Et ces personnes, c'est des personnes jugées à risque selon les critères vaccinatoires, donc principalement des hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc, il y a quand même eu une forte mobilisation, mais évidemment dans un contexte de fatigue, bien sûr, de vaccins et tout ça, et beaucoup de questionnements aussi sur l'efficacité du vaccin. Parce que comme on disait plus tôt dans l'entretien, il n'y a pas beaucoup d'informations. Moi, dans mes premiers meetings que j'avais avec différentes instances, qu'on me disait, Alexandre, on n'a pas beaucoup d'informations encore. Je posais des questions sur le vaccin qui s'en venait, qui allait être offert. Encore là, on n'avait pas beaucoup d'informations sur son efficacité réel et pendant combien de temps la première dose est efficace et tout. On avait ces questions à tous les jours sur le vaccin quand c'était offert pour la première dose dès début juin et évidemment beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est la variole, c'est quoi les modes de transmission et tout. Puis, on a eu des témoignages aussi de personnes là, qui ont dû rester à la maison quelques semaines, qui avaient des lésions un peu partout sur la partie génitale et tout. Et évidemment, pas de sexualité pendant ce temps-là, mais de rester à la maison pendant le début de l'été, alors qu'on a vécu plusieurs confinements. Donc, je répète ce qui a été dit plus tôt, mais ça a été beaucoup nommé aussi dans nos interventions. Mais quand même, somme toute, le réflexe d'aller se faire vacciner a été très fort. Et je pense que ça a contribué à stopper rapidement l'éclosion. Je pense qu'au Québec, en ce moment, on est à un peu plus de 500 cas. Puis pendant quelques semaines, il n'y a pas eu de cas. Et je pense qu'il y a que quelques cas par semaine ou par 2 semaines de plus en ce moment. Puis on regarde en Ontario, je pense qu'il y a 680 cas. Et dans quelques autres villes au Canada, c'est beaucoup moins. Je dis pas que la partie est gagnée, mais ce travail collaboratif, là, comme mentionné plus tôt, avec les milieux cliniques, milieux communautaires, centres publics, je pense que on peut partir de cet exemple pour le futur. Et je pense que pour nous, ça nous exprime à quel point, quand on est capable rapidement de travailler ensemble, bien, ça peut vraiment fonctionner.
Oui, docteur Thomas, on peut rassurer les gens à propos du vaccin, même si les gens sont fatigués finalement de se faire vacciner.
Ben, deux choses que je veux dire. On a eu c'est vrai, un succès quand même incroyable. Écoutez, on est rendu depuis quelques mois, on voit presque plus de cas. J'ai vu un cas la semaine passée, très patient qui avait été vacciné. Nous, on a quand même eu une trentaine de cas sur nos 126 cas des gens qui avaient reçu le vaccin. Sauf que les gens étaient moins malades. Mais la semaine passée, voyez-vous, j'ai vu un cas, la personne très malade, beaucoup de douleurs, et qui avait été vaccinée depuis juillet. On n'a toujours pas ces études d'efficacité sur le vaccin et ça, c'est un peu ce qui agace. Alors moi, je suis très, très content. Je le demandais qu'on ait cette deuxième dose parce que je pense qu'avec la deuxième dose, si les gens y vont, évidemment, on va pouvoir probablement éradiquer cette maladie et de ne pas être pris avec cette maladie-là pour les prochaines années parce que c'est quand même complexe dans nos bureaux et c'est pas drôle là, d'être en vacances 2 à 4 semaines en congé de maladie avec des douleurs non plus. Mm-hmm. Donc la deuxième dose est extrêmement importante, mais c'est vrai qu'on a complètement, on voit presque plus de cas. À l'occasion, bon, il y a beaucoup de gens qui nous consultent pour des problèmes de peau parce qu'ils ont peur d'avoir la variole, mais ouais, la plupart, c'est pas. On est devenu une clinique de dermatos pendant quelques mois. donc, cela dit, un vaccin quand même, puis les gens semblent, à part la douleur, avoir peu d'effets secondaires. Bon, comme n'importe quel vaccin, c'est toujours possible d'avoir une mauvaise réaction. Mais de façon générale, assez bien toléré avec peu d'effets secondaires, alors que la maladie, quand même, est quand même une maladie. Ce qu'on a, au début, par rapport à ce qu'on a dit, il y a deux choses. Il y a toujours ce débat, est-ce que la variole simienne est une maladie transmise sexuellement? Il y a des gens, des experts qui disent encore que non, il y en a qui disent que oui, mais dans 98% des cas, en tout cas, c'est que dans un contexte de maladie transmise sexuellement. On disait aussi que c'est une maladie bénigne au début, mm-hmm. alors qu'on a vu quand même des cas assez sévères, nécessitant des hospitalisations aussi, mais on n'a pas vu, heureusement, de décès. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles on a peut-être appris sur la maladie aussi, et la possibilité. Il manquait beaucoup d'informations aussi à savoir pourquoi on donnait pas la deuxième dose tout de suite, parce que des provinces, des pays le recommandaient. Je pense que c'était une question de savoir si on avait assez de vaccins pour pouvoir offrir la deuxième dose. Oui. Et bien là, même si on ne sait pas exactement il reste combien de vaccins, là on offre la deuxième dose et on encourage les personnes à risque d'aller se faire vacciner.
Oui, ça nous rappelle quelque chose, ça, manquer de deuxième dose, pas avoir d'assez de masques. Il y a eu aussi beaucoup de désinformation et de théories du complot autour de cette maladie infectieuse sur les réseaux sociaux. Je vais rappeler l'un des plus populaires qui affirmait que les gouvernements ont été de connivence avec les laboratoires pharmaceutiques pour imposer la vaccination à tous leurs citoyens. Est-ce que vous constatez que ça figure aussi dans les gens que vous rencontrez, monsieur Dumont-Blay?
Non. C'est vraiment pas quelque chose qui... contrairement peut-être à pendant la pandémie, là, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples, mais plus loin que je me souvienne, depuis fin mai, là, c'est pas un sujet qui est revenu. Au contraire, on dirait que face à ce virus, il y avait un outil. Alors là, on voulait avoir l'information puis aller se faire vacciner. Même sur nos... On a diffusé de nombreux messages, vidéos sur nos réseaux sociaux. Bon, on a eu quelques commentaires ici et là, effectivement, mais de façon générale, c'était plutôt très partagé, très commenté positivement et poser des questions aussi des fois très cliniques, là, et réseau n'est pas une clinique médicale. Donc des fois, comme vous disais tantôt, on essaie d'aller chercher l'information ou de simplement dire aux personnes, les personnes sur place, les personnes professionnelles de soins ou en milieu clinique vont pouvoir le mieux que nous répondre à certaines questions des fois qui étaient très, très cliniques. Non, je dirais que de façon générale, non, on n'a pas été submergé par ce flot de commentaires qu'on peut dire qu'on a pu voir dans la pandémie pendant 2 ans.
Oui, ils avaient épuisé tous leurs arguments.
Ben, je pense que oui. Puis allez-y.
Docteur Thomas,
c'est sûr qu'à laquelle on est toujours confronté un peu, nous autres, particulièrement dans le VIH, où on a des gens qui cessent leur traitement pensant que c'est un complot pharmaceutique. Alors, ça existe. Mais la communauté LGBTQ a été durement frappé, là encore, par le VIH, ce qui fait que je pense que c'est une communauté quand même qui est très impliquée, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau des droits humains. Et je veux dire, quand ce qu'on a ressenti, c'est que quand cette maladie-là est arrivée, on a ressenti un réel désir du milieu communautaire, des patients, des gays eux-mêmes, de vouloir participer, essayer d'en réduire. Et pour la fois, on avait un vaccin. Le VIH, on n'en a pas. Alors, pour la fois, on avait un vaccin. Donc, ça a été plutôt positif.
Oui.
Puis, tu sais, Aussi, je souhaite rappeler que selon le dernier rapport ITSS de l'INSPQ, encore à Montréal, près de 7 personnes sur 10 de nouveaux cas d'IH à chaque année sont chez les hommes, qui ont des relations avec des hommes. Donc, cette gestion de prévention puis de virus, ça fait partie des communautés depuis longtemps, et pas juste VIH puis variole cette fois-ci, mais aussi les autres TSS, gonorrhée, chlamydia, se faire dépister régulièrement, tout ça, puis en parler avec ses partenaires. Nous, on a mis beaucoup l'accent sur les discussions avec vos partenaires, parce que ce qui ressortait des informations qu'on avait par rapport à la variole, c'est que c'était souvent aussi des personnes qui avaient eu plusieurs partenaires inconnus dans les dernières semaines, dans les derniers jours, donc ils ne pouvaient pas nécessairement contacter leur ancien partenaire pour informer sur le fait qu'ils avaient contracté la variole. Donc, on mettait beaucoup l'accent sur ça. Là, on revient un peu à ce qu'on discutait plus tôt sur cette stigmatisation. On dit souvent un réseau, les hommes gays ou les hommes qui ont des relations avec des hommes ont souvent deux médecins. Un médecin pour leur vie sexuelle, puis un médecin de famille pour leur check-up annuel.
C'est tellement vrai.
Ouais. Voilà, donc je voudrais juste très rapidement, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que toute cette expérience, étant donné que tous les milieux se sont parlé dans une courte période de temps, il y a beaucoup de projets en ce moment d'initiatives qui sont en voie de financement puis d'être confirmés, études cliniques sur des médicaments pour la variole, sur l'efficacité vaccinatoire, projets de recherche internationale sur le vaccin. C'est en voie d'être confirmé, donc j'attends encore des nouvelles, mais on a été beaucoup sollicités par différents projets et probablement aussi Dr. Thomas ou la clinique actuelle, mais c'est des initiatives qui vont s'en venir éventuellement pour, j'imagine, en fait, espérons-le, mieux documenter l'efficacité, puis peut-être mieux prêt si jamais il y a une prochaine fois qu'on espère bien sûr pas.
Oui. Mais ça, c'est peut-être mon dernier conseil. Mm-hmm. Faut qu'on reste un petit peu alerte. C'est une maladie. Il y a beaucoup de cas qui seraient allés dans des cliniques de médecine. Pas que les médecins sont moins bons, mais le moins d'expérience. C'est pas toujours évident à diagnostiquer. Moi, il y a des cas, j'ai fait des tests, puis je me disais, je suis sûr que c'est pas ça, puis les tests revenaient positifs. Donc, il faut qu'on regarde ça. L'efficacité du vaccin de la première dose va chuter, j'imagine, tranquillement. Alors, il faudra aussi qu'on ait cette sensibilité-là de dire, peut-être encore une fois, d'encourager les gens à se faire vacciner parce qu'on aimerait bien s'en débarrasser complètement.
Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Alexandre Dumont-Blé, le directeur général de Réseau, et du docteur Régent Thomas, le fondateur, président directeur général de la clinique médicale L'Actuelle. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Ilric Duhamel. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, et nous avons des rediffusions sur les ondes de cette radio le jeudi. Également, vous pouvez trouver l'émission sur le site de l'agence Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Ah, et puis E.T. von Hohm.
Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus.